Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les échanges d'Emmanuel Macron avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou qu'il appelle à préserver l'intégrité du Liban où Israël poursuit ses frappes ce matin au sixième jour de la guerre. L'émotion très vive à La Rochelle au lendemain d'une attaque au couteau qui a fait un blessé dans un collège. Ses jours ne sont pas en danger. L'auteur présumé, un jeune garçon de 13 ans, est en garde à vue ce matin. Et la bronca, les fumigènes sur la pelouse scolaire des supporters de l'OM éliminés de la Coupe de France par Toulouse au tir au but.
Des explosions entendues ce matin en Israël.
À Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, des frappes des missiles menés par l'Iran qui dit avoir été ciblé par l'État hébreu dans la nuit. Des frappes israéliennes également menées sur des cibles du Hezbollah au Liban. Pas de répit, donc à l'aube de ce sixième jour d'une guerre objet d'échange, Romain Cluzel, hier, entre Emmanuel Macron et ses homologues internationaux.
À commencer par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors d'un échange hier, Emmanuel Macron lui a directement demandé de ne pas lancer d'offensive terrestre au Liban, une tentative de dissuader le dirigeant israélien. Emmanuel Macron avait déjà exprimé ce souhait lors de son allocution télévisée mardi soir. Le président appelle aussi à l'arrêt des attaques du Hezbollah contre Israël et à un retour du cessez-le-feu. La situation au Liban est très préoccupante, estime Emmanuel Macron, et il l'a fait savoir à Donald Trump. Les deux présidents ont été en contact hier, une première depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Emmanuel Macron se dit prêt à des initiatives pour venir en aide aux populations déplacées au Liban, sans en préciser les modalités à ce stade.
Pas suffisant à dissuader pour l'heure l'État hébreu de poursuivre son offensive libanaise. Tsahal dit progresser au sol ce matin dans plusieurs localités frontalières au sud du pays. Israël qui a frappé Beyrouth pour la quatrième nuit de rang. Hier, c'est un hôtel du quartier de Babda, à majorité chrétienne, qui a été ciblé. Plusieurs personnes ont été blessées. Reportage sur place de nos envoyés spéciales Marion Gauthier, Inès Zegloul.
This is where the explosion happened.
Des chambres du deuxième étage, il ne reste plus rien. L'attaque est venue du ciel, nous explique Maggie, propriétaire. Une bombe perforant son hôtel et ne laissant sur son passage que des blocs de béton sur le sol. Les ressorts des matelas, des câbles électriques qui pendent des plafonds éventrés et puis quelques souvenirs.
C'est dans ces escaliers que je criais à mes enfants de ne pas courir. Maintenant, c'est un désastre. C'est nous qui payons le prix de la guerre. Il est très cher. Israël a décidé de nous bombarder juste pour nous ruiner la vie. Ok, je suis énervée, c'est tout, mais je ne suis pas faible.
Je reconstruirai toujours, dit-elle. Pour empêcher le bâtiment de s'effondrer, les ouvriers, eux, s'affairent déjà. Ils déblaient aussi chez les voisins de Maggie.
Là, c'était tout cassé. On vient de mettre des vitres.
Comme ici, chez Sana, où tout a tremblé, tout est tombé.
On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes dans une zone militaire chrétienne. On était supposé être en sécurité. Qui est à l'abri de quoi ?
Une solution, dit-elle, serait peut-être
de partir.
Avant d'ajouter, nous n'avons pas encore pris de décision.
Et parmi les autres faits marquants, ce matin, il y a l'évacuation de la population aux alentours de l'ambassade américaine au Qatar. Ce pétrolier ancré au Koweït, victime d'une forte explosion cette nuit sans faire de victime hier. Un sous-marin américain a torpillé, écoulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un bateau au large du Sri Lanka. Il s'agit d'un navire iranien, bilan près de 90 morts au moins. Donald Trump, qui attribue aux États-Unis la note de 15 sur 10 dans la gestion de ce conflit, estimant que les États-Unis étaient en position de force face à l'Iran. L'actualité ce matin, c'est aussi ce jeune garçon de 13 ans, toujours en garde à vue à La Rochelle, soupçonné d'avoir poignardé l'un de ses camarades de classe. Ça s'est passé en plein cours hier au collège Beauregard. L'émotion sur place est forcément très vive ce matin. Notre correspondant dans l'Ouest, Pierre Bourget, s'est rendu sur place pour RMC.
Oui, Leïla, on sort tout juste quand je la rencontre encore sous le choc. L'agression a eu lieu dans sa classe en plein cours de physique-chimie.
Il était 9h25 et 10-15 minutes après, le victime il commence à courir et il commence à crier qu'il y a un gars, il l'a poignardé, il avait un couteau et la prof a tenu sa poignée pour qu'il donne le couteau.
La professeure est parvenue à désarmer l'assaillant avant d'évacuer les élèves. Ses collègues saluent un acte héroïque au sein d'un établissement plutôt calme selon cette maman dont l'enfant a été témoin de l'agression.
C'est la première fois que j'entends ça, mon grand était là déjà avant, là il n'y a jamais eu de soucis comme celui-là. Enfin, on ne s'attend pas à ça, on n'envoie pas à nos enfants, effectivement, en pensant qu'il va se passer des choses comme ça à l'école, quoi.
Certains amis de la victime évoquent une mauvaise entente entre les deux garçons, mais rien qui ne puisse présager une telle violence. Selon le recteur, la victime a été opérée hier, ses jours ne sont pas en danger.
L'heure des réquisitions aujourd'hui à Soissons au procès de Christophe Hellul, jugé pour homicide involontaire. L'homme propriétaire de Curtis a reconnu hier à la barre pour la première fois en 7 années de procédure la responsabilité de son chien dans la mort de sa compagne, Elisa Pilarski, en 2019. Une décision très attendue aujourd'hui, près de 3 ans après la mort de Naël. La cour d'appel de Versailles doit confirmer ou non le renvoi aux assises pour meurtre du policier qui a tué à bout portant le jeune adolescent de 17 ans à Nanterre en 2023. La décision sera rendue à huis clos. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Le bilan 2025 du nombre d'appels en hausse de près de 8 points au 3919. C'est la plateforme d'écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences. Dans les faits, Philippine Boulet, cela représente 108 000 appels l'an dernier.
Selon le rapport, cette hausse s'explique d'abord par une meilleure visibilité du dispositif 3919 grâce aux campagnes de prévention, mais elle traduit aussi la saturation et le manque de moyens des structures locales qui poussent davantage de victimes à se tourner vers la ligne d'écoute nationale. La majorité des appels concernent des violences conjugales ou des violences sexuelles. Dans 7 cas sur 10, il s'agit d'un premier contact avec le 3919, souvent comme porte d'entrée vers d'autres services de suivi. Enfin, la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère la ligne d'écoute, note une augmentation des appels parasites, plus d'un appel sur 10 l'an dernier. Selon la Fédération, ce sont des attaques masculinistes à l'initiative de groupes qui portent une idéologie haineuse vis-à-vis des femmes. Des appels qui sont destinés à saturer la ligne et à compliquer l'accès pour les victimes.
7h06, pitoyable. Voilà la une de la Provence ce matin.
Le quotidien provençal qui va finir par manquer de synonyme pour évoquer la situation de l'OM cette saison, battu en quart de finale de la Coupe de France hier soir au Vélodrome, éliminé par Toulouse au tir au but de Florent Germain. Les jours et les saisons se suivent et se ressemblent à Marseille.
Oui, une nouvelle désillusion pour l'OM. Marseille rêvait d'un trophée en Coupe de France pour sauver sa saison. L'élimination a provoqué beaucoup de colère chez les supporters.
Il fallait un peu s'y attendre parce que depuis plusieurs semaines, on va de déception en déception.
Il y a 70 000 spectateurs, on chante, on est derrière eux, il n'y a rien, c'est toujours pareil.
Ah bah tu sais pourquoi ? Parce qu'on est là, on paye des abonnements de 300 euros l'année, ils nous ridiculisent. C'est un truc de fou, c'est des chèvres.
Après la séance de tir au but perdu, le tour d'honneur s'est fait sous les sifflets du Vélodrome avec même des fumigènes lancés en direction des Olympiens. L'entraîneur Habib Bey comprend l'amertume des fans de l'OM.
La déception est à la hauteur de l'espoir qui avait été mis en nous sur ce match-là et sur cette campagne de Coupe de France. Forcément, lorsque vous avez l'opportunité en 2 matchs d'aller jouer une finale, il fallait déjà gagner celui-ci pour aller en demi-finale. Dans cette situation-là, il faut regarder droit devant et accepter la colère, accepter le dépit, accepter la tristesse aussi.
Marseille retrouve Toulouse samedi en championnat. La lutte pour le podium est désormais le seul objectif du club au cœur de cette saison encore plus chaotique depuis hier.
Et donc, le TFC rejoint Nice, également qualifié au tir au but aux dépens de Lorient avant un choc ce soir entre Lens et Lyon. Strasbourg est le dernier qualifié.
C'était le journal de Thibaut Texer.